Zulf Laoun, Mselkhir Alikoum, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, bienvenue à cette nouvelle émission d'Alternativé, une émission spéciale d'actualité, je dirais, sur la thématique Algérie démocratique, sociale et plurielle, unité, diversité et débat. Que signifie réellement le projet d'une Algérie démocratique, sociale et plurielle? Une sorte de mots d'ordre, de slogan répété ces dernières années, depuis le début du Hirak. Comment penser le multiculturalisme algérien sans tomber dans les dérives de la stigmatisation ou du séparatisme, le séparatisme dont on voit depuis quelques jours donc, une illustration, une tentative donc, de porter un projet de séparatisme en Algérie. Comment concilier reconnaissance de la diversité, cohésion nationale et projets démocratiques. Pour en débattre, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux universitaires intellectuels algériens, l'un résidant et travaillant en Algérie, c'est le professeur Abderrezzak Dourari, qui détient une licence d'anglais, professeur au CAPES d'anglais, magistère, il détient un magistère de linguistique arabe moderne, professeur de linguistique aussi, et de phonétique arabe. Il détient par ailleurs un doctorat de l'Université de la Sorbonne en analyse du discours, professeur des sciences du langage et de traduction en anglais, arabe et français, auteur de plusieurs ouvrages liés donc sur la diversité linguistique et culturelle en Algérie. Bienvenue, professeur Dourari, merci d'avoir accepté l'invitation. On
Merci à
a
toi.
également le plaisir d'accueillir le professeur Azri Irmak, professeur en économie et en littérature francophone, toute une diversité aussi, successivement à l'Université d'Alger, où il avait commencé sa carrière d'enseignant, ancien chercheur au CREAD et à l'INSG pour l'Institut national d'études de stratégie globale, enseignant aussi à Penn State University et Purdue University aux USA, et également ancien professeur à Cape Coast University et Legon University au Ghana, lui-même aussi auteur de plusieurs ouvrages sur l'Algérie, sur son histoire, sur sa culture, sur la démocratie et en économie également. Bienvenue, professeur Ansri Irmat. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alternativé.
Merci. Merci à
Voilà. Merci et bienvenue donc à les internautes qui vont pouvoir suivre notre émission. N'hésitez pas à la commenter, à partager le live de l'émission. Je commencerai par une question au professeur Dourari pour nous définir un peu le multiculturalisme. Moi qui vis ici au Canada, j'ai une petite idée, mais peut-être que ça ne correspond pas à ce qu'on pourrait vivre en Algérie, d'autant que même si, même ici au Canada, le multiculturalisme, il est diversement apprécié selon qu'on se trouve dans les provinces canadiennes anglophones ou que l'on se trouve dans une société comme le Québec où donc elle vit une double situation, d'abord minoritaire dans le Canada, donc qui est dominé par la majorité anglophone et majoritaire dans la société québécoise par rapport donc aux nouveaux arrivants, aux immigrants et même à la minorité anglophone au Québec. Mais en Algérie, qu'est-ce que c'est que l'idéologie de multiculturalisme, professeur Dourari?
Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, j'aurais bien voulu que ce type de débat soit projeté en Algérie, parce que nous avons vraiment besoin de réfléchir sur nous-mêmes. Nous sommes à un moment très important qui risque vraiment de pousser l'Algérie, c'est-à-dire l'État algérien. Quand je parle d'État algérien, je parle du système institutionnel. Je ne parle pas des gestionnaires de l'État. L'Algérie contient 50 millions d'habitants et beaucoup de ces 50 millions sont capables, bien sûr, de faire la gestion d'une manière correcte. Donc, je ne vise personne. Donc, l'État, aujourd'hui, avec les événements récents, je crois qu'on va revenir en détail sur cette question un peu plus tard. L'État algérien est menacé par l'ouverture d'une brèche sur ses flancs, c'est-à-dire sur son territoire et sa constitution en tant qu'État et en tant que peuple et nation, en tant que communauté politique, en tant que communauté de citoyens. On ne peut pas bien évidemment passer comme ça sur cette question, gars, c'est rien du tout, c'est symbolique ou autre. Donc, pour donner le temps à la question du multiculturalisme, je travaille dessus depuis 2000. J'ai publié deux ouvrages, un en France qui s'appelle Culture populaire au pluriel, Culture nationale au singulier en Algérie. C'est celui-là, donc il est disponible sur Amazon certainement. Donc il remonte à 2000, c'est très vieux. Donc vous avez, tout le monde pourra remarquer que culture populaire, c'est au pluriel. Et que culture nationale, c'est au singulier. Donc la culture nationale algérienne, on peut considérer que c'est l'ensemble synergétique de l'ensemble des culture populaire ou dite régionale. À l'époque, je n'avais pas utilisé le terme régional pour la sensibilité qui, par moment, est liée au terme de région qui est vraiment malheureux. C'est-à-dire, on appauvrit notre vocabulaire juste parce que ça doit gêner certaines personnes. Le dernier livre qui porte sur ça exactement, c'est celui-là. Donc le livre
Multiculturalisme et
Multiculturalisme
unité nationale.
des langues et des cultures, des langues et des cultures en Algérie, de l'unité dans la diversité. Alors, le premier travail a été fait essentiellement à partir de mes préoccupations de sociolinguiste et de socio-sémioticiens, ne me demandez pas de l'expliquer, ça va être trop long. Donc, retenons à partir de la sociolinguistique, c'est-à-dire en observant la société algérienne, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez de la diversité. Moi, je suis un Algérien au plein sens du terme, c'est-à-dire je voyage dans tous les coins de l'Algérie et à chaque fois, je suis bien reçu. Je suis Kabyle, les gens savent que je suis Kabyle, je n'ai aucun souci, ni à Ouargla, ni à Ghardaïa, ni à Tamanrasset, ni à Oran, ni à Tlemcen, ni à Annaba. Bon, je ne vais pas vous citer toutes les villes
Emilia,
algériennes.
oui.
J'en ai cité qui étaient complètement différentes. C'est pour ça que je voulais les citer. J'étais absolument bien reçu. Il y a dans la revendication amazigh à l'époque, je dois peut-être rappeler très ra rapidement que les accords de Yaourén ou la plateforme de
Le
Yaourén,
séminaire, le
le
séminaire.
séminaire, oui, est sorti avec une plateforme dans laquelle on parlait déjà de pluralité politique, évidemment, et en même temps une pluralité linguistique. On parlait de Tamazight au singulier, c'est comme ça qu'on comprenait à l'époque, et on parlait de l'arabe algérien à côté des autres langues, c'est-à-dire le français et l'arabe que j'appelle scolaire. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on n'imaginait pas. Là, vous voyez bien que j'ai beaucoup évolué par rapport à cette période. Et c'est que à l'époque, on ne pouvait pas penser qu'une pluralité puisse exister comme ça, sans conflit. Eh bien, c'est exactement cette même idée qui a mené un philosophe politique, c'est Wilkim Licka, pour ne pas le citer, Wilkimdika, qui doit avoir peut-être 6 ans de moins que moi, et qui est professeur de philosophie politique à l'université Queen's, donc c'est Queen's University Kingston à Canada, et qui a publié, il est parti de cette même préoccupation. Est-ce que la pluralité des cultures et des langues va mener vers une déstabilisation de l'État unitaire? C'était ça la question. Est-ce que la question de l'unité nationale pouvait être atteinte, dérangée, perturbée par la présence de différentes minorités, mais pas seulement des minorités, aussi donc des cultures, des langues, des représentations qui seraient différentes. C'est-à-dire, en fait, il est parti de ce type de questionnement pour ensuite interroger le concept d'État-nation. Le concept d'État-nation, il est né quand même des traités de Nord-Westphalie au XVIIe siècle, 1648, après le démantèlement ou la division de l'Empire romain à l'époque. Donc la venue de l'Europe et des États européens qui se sont partagés donc l'héritage territorial et symbolique de l'Empire romain. Alors, la question qui s'était posée à l'époque, c'est comment assurer une vie à l'intérieur donc du continent européen, qui était l'ex-Empire romain, sans conflit, sans guerre, parce qu'il y avait beaucoup de guerres. Donc, comment arriver à là? Donc, il y a eu une théorie de l'État-nation. L'État-nation a assuré la souveraineté de l'État. Il devait avoir une population particulière, un territoire particulier, un gouvernement. Donc voilà les quatre caractéristiques qui avaient été posées pour l'existence d'un État-nation. L'État-nation est devenu par la suite, je ne vais pas aller dans tout le détail, mais l'État-nation ne peut pas être un État qui assure la sécurité pour tous que s'il a une profondeur territoriale suffisante, et bien évidemment une force démographique suffisante. Donc la démographie d'un côté et le territoire de l'autre. Entre parenthèses, il ne peut pas y avoir une victoire d'Israël contre l'Iran pour ces deux raisons, parce que Israël démographiquement, il est faible et territorialement, il est faible comparé à l'Iran qui a un grand territoire et bien évidemment aussi une grande démographie. La même chose qui se passe actuellement, tous les géostratèges vous le diront, entre l'Ukraine et la Russie. La Russie a une profondeur territoriale extraordinaire et bien évidemment une démographie qui dépasse de très loin. Donc, à nous, c'est des éléments qui étaient fondateurs dans l'idée même d'État-nation. Le problème, pourquoi on en parle, c'est parce qu'à un certain moment, ils ont, avec, j'allais dire, la venue de la Révolution française et donc dans toute la période de ce qu'ils avaient appelé l'Enlightenment, donc le Aufklärung, en français, ça ne vient pas, je ne sais pas pourquoi. Hein, le siècle de lumière, dans le siècle de lumière,
les lumières.
et ça, il y a eu cette idée de citoyen et que le citoyen doit être avoir des libertés individuelles, il doit avoir des garanties sociales et culturelles à l'intérieur du groupe. Mais il fallait éviter à tout prix qu'il y ait la création de communautarisme, comme c'est le cas par exemple dans le multiculturalisme de la diversité appliqué aux États-Unis. Là-bas, c'est
Au
des.
Royaume-Uni aussi.
Au Royaume-Uni, oui, ce sont des. Oui, donc ils se ressemblent beaucoup. Donc on met une communauté à côté d'une autre, etc., etc. Le concept qui a été mis en avant et qui continue d'ailleurs actuellement, il est très utilisé. de Will Kimlicka, bien sûr, il y en a d'autres. Je parle de lui en particulier, qu'il a publié dans deux livres complémentaires mais différents. Le premier, il s'appelle Multiculturalism and Citizenship. La citoyenne, elle a été traduite. Celui-là, il est sorti en 95. Et elle a été traduite en France en 2001. Elle a été appelée La citoyenneté multiculturelle, une théorie libérale du droit des minorités. Le deuxième livre, c'est Multiculturalism from a cosmopolitan perspective. C'est-à-dire le multiculturalisme à partir d'une perspective, vue d'une perspective cosmopolitaine, qui a été publié par Cambridge University Press en 2010. Donc, à partir de ces deux livres, le premier livre surtout, c'est de celui-là que je vais surtout parler, il a remis en question, il a débattu de cette question justement de est-ce qu'il y a une contradiction entre la citoyenneté telle qu'elle a été proposée donc dans le siècle des Lumières, la Révolution française, etc., comme un être universel. Donc, où les références à la communauté, à la culture spécifique, etc., étaient mal vues, si vous voulez, politiquement, mais socialement, etc. Il a remis en cause ça en disant qu'il était possible que dans un État unifié, dans un État-nation unifié, il était possible d'avoir des groupes hein, culturels. Donc des cultures différentes, des langues différentes, et qui ne sont pas nécessairement en contradiction avec le concept universel. On ne peut pas avoir dans un État particulier, un État-nation, que des êtres complètement aseptisés. Un être humain, c'est une personne humaine, elle a une profondeur anthropologique, elle a un imaginaire, elle a une culture, elle vient de quelque part, mais elle vient dans un groupe. Donc, dans le multiculturalisme de la diversité, chacun doit garder son groupe. Mais dans le multiculturalisme de la citoyenneté ou cosmopolitain, dans ce type de multiculturalisme, chacun peut vivre sa culture, sa langue, sa spécificité, sans être nécessairement en contradiction avec les autres. Parce qu'il y a une tolérance, il y a une acceptation de la différence. Et c'est en réalité ce que recèle le concept même de citoyenneté depuis qu'elle a été créée en remontant aux premiers philosophes du XVIIe siècle dans cette matière. Voilà un peu une idée globale. Si tu veux, je reviendrai davantage sur ça.
Parfait. Professeur Irmak, vous êtes connecté à deux endroits. Je sais pas, est-ce que ça ne ferait pas une interférence avec vous parce que vous n'aviez pas fermé la première connexion. Allez-y, parlez. Donc, je vous pose la même question, professeur Irmak, vous qui vivez depuis plusieurs années aux États-Unis, professeur Durari a évoqué le multiculturalisme américain, on peut parler du multiculturalisme aussi au Canada. Est-ce que c'est le même modèle qu'on pourrait envisager en Algérie?
Moi, je pense que c'est très possible. C'est très possible, étant donné la diversité culturelle, la diversité régionale, la diversité linguistique, etc. Ceci est tout à fait imaginable. Encore faut-il bien sûr qu'il y ait une volonté politique de le faire. Et je crois que c'est tout ça notre débat d'aujourd'hui.
Parfait. Donc, je pose ma deuxième question à vous deux. En fait, elle est dans le titre de l'émission. Depuis quelques années, depuis le début du Hirak notamment, on a vu un slogan ou un certain projet d'une Algérie démocratique, sociale et plurielle. Auparavant, on entendait le mot d'ordre d'Algérie démocratique et sociale, voire d'Algérie libre et démocratique, mais depuis le début du Hirak, donc on a vu ce nouveau mot d'ordre qui intègre la pluralité en Algérie, de la société algérienne. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais que l'on clarifie un peu rapidement, s'il vous plaît, ce qu'on entend par une Algérie démocratique, ce qu'on entend par une Algérie sociale. Démocratique, peut-être que c'est vu par les Algériens comme des institutions donc, où il y a une pluralité de partis démocratiques qu'on peut révoquer, etc., des élections libres, et libération du champ politique et médiatique. Mais qu'est-ce qu'on entend aussi pour une Algérie sociale et une Algérie plurielle? Donc, je voudrais que vous nous définissiez ces expressions-là avant d'aller un peu plus loin dans la discussion. Allez-y, professeur Hermat.
Oui, je pense qu'il va falloir prendre les trois dimensions l'une après l'autre. Mm-hmm. La dimension démocratique, la dimension sociale et la dimension pluraliste. On va commencer par le concept de démocratie, parce que c'est un concept qui englobe, à mon avis, toutes les autres. Alors, donc, une Algérie, qu'est-ce que c'est qu'une Algérie? Qu'est-ce que serait une Algérie démocratique? Et je crois que pour cela, il faudra bien sûr revenir au concept lui-même de démocratie et aux principes même qui le fondent. Alors, je pense qu'il y a cinq ou six principes fondamentaux qui définissent un pays démocratique, une nation démocratique. Le premier principe, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple est l'ultime source de pouvoir. Ce sont les citoyens, en d'autres termes, qui donnent au gouvernement, qui donnent aux institutions de l'État, qui lui donnent la possibilité de gouverner. Deuxième principe, c'est ce qu'on appelle dans le droit anglo-saxon the rule of law. C'est-à-dire la règle, moi, je préfère the rule of law plutôt que l'état de droit, parce que the rule of law, c'est vraiment plus précis, il s'agit du règne de la loi. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les institutions de l'État doivent être redevables, doivent être comptables devant le peuple ou ses représentants. De la même manière, comme un corollaire, il faudrait aussi que la loi s'applique à tout le monde, quel que soit leur statut. Troisième principe fondamental, des élections libres et transparentes. Les élections doivent avoir lieu sans entrave et sans intimidation. Les citoyens doivent être en mesure de présenter leur candidature à n'importe quel poste de l'État sans en être empêchés. Quatrième principe, les décisions doivent être prises à la majorité. Alors, cela n'exclut pas, bien sûr, et en principe implique aussi que les minorités, les droits des minorités soient respectés, soient représentés et protégés. Cinquième principe, c'est ce qu'on appelle aussi en anglais « accountability », c'est-à-dire que les gouvernants à tous les niveaux doivent rendre des comptes au peuple ou à ses représentants. Et enfin, le dernier principe, les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, doivent être absolument séparés. Et que ce soit accompagné aussi d'un système de ce qu'on appelle aussi en anglais the check and balances, c'est-à-dire des contrôles qui sont faits l'un par les autres pouvoirs sur un pouvoir donné. Et ça permet un petit peu l'équilibre. Et ça permet aussi de déceler les abus de pouvoir qui peuvent être commis par l'un de ces trois pouvoirs. Deuxième dimension, c'est une Algérie sociale. Qu'est-ce que c'est qu'une Algérie sociale? Une Algérie sociale, c'est signifie que l'État et les institutions qui en font partie, il faut qu'elles soient au service de la société et qu'ils servent à satisfaire les besoins de cette société. Les besoins tels que, par exemple, Abraham Maslow les a définis avec sa fameuse hiérarchie, en commençant par les besoins biologiques, ensuite les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, et on en parlera tout à l'heure avec l'appartenance culturelle, l'appartenance linguistique, etc. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'estime. Par exemple, en Algérie, c'est connu qu'il y a ce qu'on appelle le fléau de la hogra, où les gens, précisément, ne se sentent pas, si vous voulez, respectés, que leur estime, leurs droits ne sont pas respectés. Cinquième besoin et dernier, c'est les besoins d'accomplissement de soi, c'est-à-dire que l'État doit permettre aux citoyens de réaliser leurs rêves sans que ceci ne soit entravé dans aucune sorte. Et troisième dimension, c'est la dimension plurielle. Alors, une Algérie plurielle, et je crois que mon ami et mon collègue Abderrazak en a parlé, et il en parlera certainement mieux que moi tout à l'heure, c'est qu'il y ait une reconnaissance, cela passe par une reconnaissance de la diversité de la population, de sa diversité régionale, de sa diversité culturelle, linguistique, vestimentaire, gastronomique, religieuse, politique, etc. L'État doit donc comprendre que cette diversité est une richesse et non pas un obstacle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour clarifier un petit peu les concepts.
Merci, professeur Irmat. Donc je précise un peu la question, mais je pouvais revenir à ce que la question initiale, professeur Abderrazak Dourari, mais ma question précise pour vous, c'est: peut-on avoir une démocratie sans justice sociale dans le contexte algérien, ou un État pluriel sans souveraineté populaire réelle et sans démocratie? Je sais que ça existe, on peut citer des modèles multiculturels qui semblent vivre bien, alors que la démocratie y est absente. Qu'en est-il de l'Algérie? Est-ce qu'il faut vraiment, comme le dit le professeur Irmat, que les trois aspects soient liés ensemble pour qu'on garantisse donc une société harmonieuse?
Oui, alors, si Aspey nous a parlé un peu, en fait, de conception qui est propre à la Constitution américaine, mais qui peut, bien évidemment, elle-même, elle est venue de principes démocratiques de John Locke et autres, donc des premiers philosophes politiques qui ont parlé de la manière de mener un gouvernement. Checks and balances, les freins et les contrepoids, je crois. À un certain moment, j'étais un bon champion de la Constitution américaine, mais bon, avec le temps... Déjà, ça exige qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Donc, le judiciaire, le législatif et l'exécutif ne doivent pas se superposer et ils ne doivent pas non plus dépendre de l'exécutif. Parce qu'en général, les pouvoirs ont tendance, et je parle du pouvoir exécutif, a tendance à abuser du pouvoir exécutif et essayer donc de ronger dans le domaine du législatif ou du judiciaire, ce qui est très mauvais pour un État. Un État, les individus, comme je disais tout à l'heure, pour passer de l'état de nature, pour reprendre Hobbes et Jean-Jacques Rousseau, il passe de l'état de nature à l'état à la vie en société, à la vie politique, parce qu'il y trouve un intérêt pour sa survie, un intérêt pour sa santé, un intérêt, etc. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt dans l'État, s'il adhère à un État qui lui-même ne lui donne absolument rien, il lui garantit ni ses droits, bien évidemment, ses droits sociaux, ses droits politiques, ses droits culturels, ses droits linguistiques, etc. Il faut comprendre l'individu, s'il vous dit à un certain moment, écoutez, ben écoute, moi je suis venu dans une association, j'apporte mes libertés, j'ai donné mes libertés, comme le dit Hobbes, pour lui, la royauté a commencé comme ça. Les gens, ils étaient dans la guerre de tous contre tous. Et dans la guerre de tous contre tous, bien sûr, c'est pas ça, ça c'est une hypothèse de Hobbes. C'est pas la même d'ailleurs que chez Jean-Jacques Rousseau. Mais quand ils viennent dans la société, ils apportent une espèce de reconnaissance au roi. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que serait née la royauté. Donc ils donnent leur liberté au roi, qui en fait ce qu'il a envie de faire, mais parce que c'est quand même, ça reste quand même assez rentable, assez intéressant pour l'individu qui vient s'associer à un autre groupe. Bon, ça c'est vraiment limite, quoi. C'est vraiment limite. Mais là, il parle des débuts. On n'est pas dans la société d'aujourd'hui. Beaucoup de philosophie s'est faite, beaucoup de réflexions sur la gouvernance, sur le gouvernement, etc., qui ont fait que le citoyen, il doit être accepté de plus en plus dans ses différences. C'est-à-dire, mais le citoyen lui-même, il ne vient pas avec des différences intangibles. Alors moi, je suis comme ça et puis j'en ai rien à foutre des autres. Non. Les gens, ils s'acceptent mutuellement, mais ils peuvent vivre leurs différences. Alors, la question de la séparation du pouvoir est très importante, sans aller déjà dans les checks and balances, parce que là, c'est les équilibres entre les différents pouvoirs. C'est en train d'être théorisé, me semble-t-il, dans ce sens maintenant en Europe. On parle des équilibres. C'est-à-dire, le pouvoir judiciaire doit être équilibré avec le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Je vais vous dire que si on n'a pas ça, il n'est pas possible d'avoir un État. Si vous n'avez pas la justice, vous ne pouvez pas avoir un État digne de ce nom. Parce que l'État, c'est un collectif, c'est une abstraction à laquelle adhèrent les gens, parce qu'elle est intéressante, elle est intéressante pour eux. C'est-à-dire qu'ils y voient un bénéfice. Si moi je viens dans un collectif, je sacrifie une partie de mes libertés, c'est normal, mais ensuite je n'ai rien en retour, je ne vois pas comment ça serait intéressé. Pour moi, ça va créer au moins un malaise identitaire, un malaise linguistique, un malaise politique, un malaise social, etc. Donc, le pilier d'un État, c'est la justice. Et la justice libre, la justice indépendante, la justice qui dit le droit et que le droit lui-même doit être un peu avalisé par la société. C'est-à-dire, c'est le peuple qui dit telle loi est légitime et telle loi ne l'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des lois. Il faut que les lois soient légitimes, soient acceptées par la collectivité. Une loi qui n'est pas acceptée par la collectivité doit être changée parce qu'elle est considérée comme illégitime. Donc, à quoi ça sert de légiférer, de produire des lois, et si le peuple lui-même n'adhère pas à ces lois? Et vous connaissez les lois hadou, elles me sont extérieures, je ne peux pas les suivre. Donc, disons, pour l'instant, d'une manière très simple, quoi, que l'appareil, bah, pas l'appareil, donc le pouvoir judiciaire doit être un pouvoir absolument autonome et fondé sur des lois qui sont légitimes. La légitimité vient du peuple. C'est le peuple qui adopte les lois et qui les déclare
C'est-à-dire c'est
légitimes.
lui qui élit ses représentants aussi de façon libre. Pour que les lois soient légitimes, il faut qu'elles proviennent d'institutions qui sont l'émanation de la population aussi.
Très bien. C'est-à-dire que le pouvoir législatif, là où le Parlement, il doit être représentatif, réellement représentatif. Donc, se pose bien évidemment la transparence des élections et bien sûr leur honnêteté. Il faut faire des élections, comme dirait Sid Ahmed Razali, propres et honnêtes. Donc, sans l'élection transparente, propre et honnête, on n'aura rien fait. On aura fait une manipulation et le problème restera entier. Donc, enfin, l'exécutif doit fonctionner dans le cadre de la loi et en faveur du peuple, parce qu'il n'a pas été et n'aura pas été désigné pour se servir lui-même. Il a été désigné là-bas, élu par les modalités qu'on connaît, pour servir le peuple et l'État en tant que collectif. Les grands principes, et ces grands principes-là, si on ne les a pas, l'État serait défaillant, il y aurait beaucoup de problèmes, et ça pousse justement à favoriser ce qu'on appelle les forces centrifuges. Dans une société, dans les sociétés modernes, vous avez des forces qui essayent de regrouper, mais vous avez aussi des forces qui essayent de dissocier les gens les uns des autres, les groupes, les régions, les intérêts différents, etc. Le côté social dont tu as parlé tout à l'heure, nous avons, à travers l'histoire de l'humanité, nous avons des démocraties sociales, de ce qu'on appelait à l'époque une démocratie populaire. Le principe, c'est qu'il fallait assurer d'abord une espèce de justice sociale dans la société, donc avoir un État redistributif ou la distributif qui remet et qui aide les classes pauvres en difficulté, etc., de sorte à essayer de créer une société moyennement bonne du point de vue financier. Quelqu'un à qui tu donnes les moyens donc d'aller à l'école, d'éduquer ses enfants, d'avoir un travail, d'avoir un logement,
De se
d'avoir un système
soigner,
de santé, etc. Donc c'est ça le côté
le
social.
côté
Parce que
social.
l'État, c'est un collectif. L'argent qu'il a à sa disposition, je parle des gestionnaires de l'État, ils ont de l'argent. C'est la richesse de la société, c'est la richesse du collectif. Il faudra quand même qu'ils en fassent bénéficier les couches les plus fragiles. Donc ça complète en réalité la démocratie qui était considérée pour certains, la démocratie libérale, qui ne consistait qu'à garantir la participation à la gestion du pouvoir. Donc vous avez des partis politiques qui représentent des individus, des intérêts politiques, mais aussi des intérêts de classe. C'est le cas, par exemple, de la démocratie américaine plus particulièrement, qui, à travers le système censitaire qui est là, c'est-à-dire les grands électeurs, etc., en réalité dévie un peu, fait un biais à la démocratie, et pas une démocratie directe. C'est pas le suffrage universel direct, c'est le suffrage indirect. Donc là, la démocratie libérale ne s'occupe que de la concurrence entre différents partis politiques. Elle ne s'occupe pas de la question du social. Je pense, par exemple, c'est un truc, c'est l'Union européenne a été bâtie beaucoup plus sur la démocratie de type libéral et a complètement oublié le côté
Social.
social, qui ne plaît pas, bien évidemment, au peuple européen.
Merci, professeur Abderzak Dourari. Je me tourne vers professeur Azri Irmat. Professeur Irmat, professeur Dourari vient d'évoquer les forces centrifuges et les forces qui essayent, qui tentent de disloquer des pays comme en Algérie. Il y a quelques jours, donc, il y a eu une déclaration d'indépendance faite par le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a remis brutalement, je dirais, sur le devant de la scène la question de la pluralité en Algérie. Ma question, cette dérive séparatiste, professeur Irmat, ne révèle-t-elle pas justement l'urgence de reconnaître et de gérer de façon démocratique la pluralité linguistique, culturelle et politique en Algérie, plutôt que de continuer à la nier, voire de la réprimer? Je rappelle juste à ceux qui nous suivent que professeur Irmat a signé un papier ces derniers jours, que je vais le partager sur la question. Il a nommé les origines du mal, et entre parenthèses, il y a un cas, c'est-à-dire les origines du Mac. Donc, allez-y, professeur Irmat.
Oui, je crois que dans cet article donc, que tu cites, Rabah, je l'ai intitulé effectivement l'origine du Mac, du mal, entre parenthèses, avec un cas. Hein, et vous comprenez tous ce que je veux dire. Dans cet article, j'ai indiqué toutes les raisons. Je n'ai pas voulu parler réellement du résultat de la déclaration elle-même. C'est aux citoyens algériens, à mon avis, de prendre position, de décider pour eux-mêmes. Mais dans cet article, j'ai voulu surtout souligner les raisons profondes qui ont conduit à ce résultat, donc à la déclaration, à l'émergence donc de ce mouvement et à la déclaration elle-même. Alors, j'ai dit que les raisons qui ont conduit à ce résultat ne datent pas du 14 décembre donc 2025, mais qu'elles trouvent leur origine dans les crises successives et tous les soubresauts successifs que le pays a connus. Et on peut citer, donc revenir un petit peu en arrière, citer le printemps berbère de 80, le octobre 88, le printemps noir de 2001, et bien entendu, on ne peut pas ne pas en parler, le Hirak de 2019. Alors, quelles sont ces raisons? Les principales raisons que j'ai trouvées, c'est d'abord l'absence d'une vision claire du développement économique et social en Algérie. On n'a jamais eu, je me rappelle, des gens comme Djilali Liabes, comme... je ne me rappelle plus le nom d'un sociologue qui a été assassiné et qui a participé donc à disons je crois que c'était le président Boudiaf Layrahmou qui leur a demandé de faire donc une sorte de vision de d'écrire la vision de l'Algérie. Alors donc il y a une absence totale donc d'une vision claire sur l'avenir, le devenir économique, social et politique du pays. Il y a bien sûr, on en a parlé, on en parlera peut-être encore, l'absence de démocratie et de liberté donc en Algérie, et c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Il y a la corruption qui gangrène un petit peu tous les étages de la société, de bas en haut. Il y a la marginalisation de la langue amazigh qui a été certainement un facteur dans l'émergence du mouvement dont on parlera peut-être tout à l'heure. Il y a la hogra, etc. Donc, comme la nature a horreur du vide, le vide a été très rapidement comblé par ce mouvement. Si toutes ces raisons que je viens de citer avaient été, à mon avis, attaquées dès le départ et dans leurs sources, je crois qu'on aurait eu un résultat différent. Voilà ce que je voulais dire.
Pardon, mon micro est désactivé. Donc, je me tourne vers le professeur Dourari sur la même question. Est-ce qu'on peut dire que le refus de la pluralité ou la résistance à la reconnaissance de la pluralité de la société algérienne a nourri les radicalités que les autorités prétendent combattre?
Il y a un problème dans la société algérienne et je l'avais très bien souligné dans un autre livre, dans un article que j'ai appelé « Hétéronomie du champ du savoir ». C'est-à-dire le champ du savoir, il est mis sous la botte. Vous voyez un peu ce qui est en train de se passer pour la thèse de Samir Larabi. Il a fait une thèse de sociologie qui a révélé le mécanisme de fonctionnement des groupes, disons, pro-berbères ou berbéristes, qui étaient soit dans l'orientation séparatiste ou dans l'autre. C'est-à-dire algérianistes, comme ils les appellent. Le fait que l'État algérien ne se nourrit pas du savoir, des sciences sociales et humaines qu'il déteste, qu'il essaie à chaque fois de minimiser, de réduire à rien, de vilipender par moment, au lieu de les utiliser, au lieu d'utiliser cette connaissance qui est produite et qui vous donne les moyens de construire des politiques publiques rationnelles, informées, etc., on préfère précisément ne pas du tout rendre ce savoir des sciences sociales et humaines, le rendre visible. Vous avez les travaux de Djabi, vous avez les travaux de Karim Khaled, vous avez les travaux de... beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce domaine, et qui nous permettent de connaître notre société et ses tendances. Mais déjà, si on a bien suivi, par exemple, le fonctionnement du Hirak, pendant 2 années, il y avait entre 10 et 20 millions d'Algériens dans toutes les wilayas qui sont sortis, et les mots d'ordre les plus importants, qui étaient récurrents, déjà sans faire une analyse très profonde. Là, j'avais publié un article à l'époque sur la presse, quand elle était une vraie presse, où je disais que la lecture seulement des 10 slogans les plus répétés partout dans le territoire national nous permet de donner une idée, une image de ce qu'est notre société ou comment a évolué notre société. Je vous lis l'un des trucs que j'ai cité ici, ces 2 lignes, hein, Maître Hafouch. Qbayli, Chaoui, Mzabi, Tergui, Arbi, Khawa Khawa. Urgent, c'est en français, échec de l'opération chirurgicale de séparer les Siamois, Chaoui, Kabyle, Arabes, Mzabi, Tergui, car ils ont le même cœur battant. Et deux points, l'algérianité. On parle d'algérianité précisément. Alors, Hada, c'est un slogan qui était très répété. Ça signifie que la société algérienne, elle s'est intégrée. Et il y avait des éléments d'intégration que j'ai développés ailleurs, décrits plutôt de manière précise, à partir du 13e siècle de l'ère chrétienne. On ne va pas y revenir. Le problème, c'est que cette société qui a évolué, qui est arrivé par moment à 24 millions, me semble-t-il. 24 millions, c'est le corps électoral algérien. C'est la totalité du corps électoral à l'époque. Je ne sais pas maintenant il est de combien, mais à l'époque, c'était ça. Si toutes les régions d'Algérie vous disent qu'on n'a pas de soucis, ni ma Qbayl, ni ma Chaouia, ni ma Al-Mzab, ni ma Touareg, ni ma X ou Y, ou ma Goulgagda, nous sommes. Nous sommes le même peuple, nous avons les mêmes revendications de démocratie, de liberté, soif de justice, etc. Comment tu vas lire autrement? Tu ne peux pas lire autrement. C'est eux-mêmes qui le disent, qui le clament à travers les rues pendant 2 ans. Donc c'est très clair, nous avons une lecture sociologique et anthropologique qui est à ciel ouvert. Vous n'avez pas besoin d'ailleurs d'un grand savoir pour pouvoir le comprendre. Donc à ce niveau-là, c'est très clair. La société, elle a évolué. Elle n'est pas divisée en 1000 morceaux. Et déjà, la guerre de libération nationale, on peut remonter même avant, avait déjà fait beaucoup ce melting pot qui a été absolument réussi. Quand c'est réussi, c'est pas idéal. Ça signifie que bon, il y aura certaines choses qui aurait dû être réglé par les différents ministres de la culture qui se sont succédés dans le pouvoir algérien depuis 62, mais que très peu étaient à même, hormis la période une période très courte. Maintenant, nous avons une ministre de la Culture, je reconnais, je la connais, et les professeurs de philosophie, elle comprend tout ça. Mais est-ce qu'elle a, j'allais dire, un plan pour précisément faire quelque chose à travers la culture pour renforcer ce qui est déjà assez puissant, c'est-à-dire l'unité de cette population et des différentes régions. Voilà, si on en vient à la déclaration qui vient d'être faite. La déclaration, d'abord, elle s'est faite de manière ontologique, c'est-à-dire qui donne qualité à M. Farhat Mahni ou quelqu'un d'autre parmi les Algériens, qui lui donne qualité de proclamer l'indépendance de la Kabylie. Moi, je suis Kabyle, je ne l'ai pas mandaté. Personne ne l'a mandaté en Kabylie. On me dira qu'il est en exil. Ben, quand on est en exil, quand on est limité par le pouvoir de représentativité, par la qualité de la représentation, on s'aventure pas sur des terrains comme ça. Tu ne décides pas pour moi. Moi, je vis en Kabylie, ma famille est en Kabylie, on est né en Kabylie, on a grandi en Kabylie. Depuis, je peux remonter dans ma généalogie de manière scientifique jusqu'au XVIe siècle dans la Kabylie. Et dans le dernier ouvrage de Farid Barandan, professeur Farid Barandan, spécialiste de toponymie et d'anthroponymie, il cite maintenant dans les généalogies les plus anciennes. Donc, une déclaration ontologique, ça signifie que quelqu'un n'a pas qualité pour faire cette déclaration. La qualité, elle est démocratique. La qualité, elle n'est pas comme j'ai cité tout à l'heure Hobbes, exprès. Parce que lui, le roi, il se déclare et puis les gens... c'est pas comme ça que ça se passe maintenant. On n'est pas au XVIIe siècle. On est au XXIe siècle où les modèles de gouvernement et la gestion du politique dans la société est beaucoup plus rationalisée. Est-ce que moi je vais, ou n'importe quel Français, va comme ça dire, voilà, je veux l'indépendance de l'Alsace. C'est bien que l'Alsace a été rattachée à la France, d'accord. Mais est-ce que n'importe qui peut venir dire, salam alaikum, eh ben, moi je veux l'indépendance de l'Alsace. Mais... De quoi tu t'autorises? Il y a un sérieux problème là-dedans et un problème de démocratie qui est posé. Alors, effectivement, c'est un acte de langage. Donc, je suis linguiste, tu m'excuses un peu d'avoir un biais un peu de temps en temps. En tant qu'acte de langage, dans la pragma linguistique, il y a un livre fondateur de Austin qui parle de le titre c'est How to do things with words. How to do things with words. Ça a été traduit en français qu'en dire c'est faire. On est exactement en plein dans le sujet. Quand tu déclares, ça veut dire que tu as fait un acte. Et l'acte, il est réel. L'acte, il n'est plus linguistique. Il se transforme en fait. Donc, la gravité de la chose, on ne peut pas la passer sous silence. Et c'est quelque chose de grave. C'est pas parce que c'est lié à sa personne, qu'il y ait lui ou que lui n'existe plus, etc. Ça change pas. L'acte a été déjà fait et les gens pourraient se définir par rapport à cet acte dans l'avenir. Ce que ça ouvre comme danger, c'est que dans le flanc défensif du territoire algérien, il y aura une brèche. À travers cette brèche, beaucoup, parce que dans les rapports internationaux, ce ne sont pas des rapports entre bisounours. On sait très bien que les États n'ont pas d'amis, ils ont seulement des intérêts. Et les gens qui ont intérêt aujourd'hui d'écraser l'Algérie en tant qu'État, pas en tant que pouvoir, en tant qu'État, ces États-là, ils vont pas se gêner, bon sang. Ils ont rasé Gaza à zéro juste parce qu'il y a des intérêts géostratégiques des États-Unis dans cette région et peut-être aussi, enfin je ne vais pas trop aller dans ce sens sinon je vais pas finir. La question, plus que ça, donc non seulement quelqu'un se permet de mettre la main sur l'Algérie et arracher un morceau. Et il pense que, parce que lui, il est habile, il est capable de le faire, mais c'est la capacité en termes physiques, ou là en termes politiques. C'est-à-dire qu'il peut le faire sans déranger tous les autres Algériens. Je ne parle pas des Kabyles seulement. Moi, je suis Kabyle, ça me dérange. Mais tous les Algériens, ce territoire, il leur appartient. Comment toi, tu décides tout seul de déclarer l'indépendance de la Kabylie? Tu t'autorises de quoi? Et bon sang, il faut quand même se réveiller, quoi. Et si on ne se réveille pas par rapport à ça, c'est très grave. Mieux que ça, cette future république de Kabylie, elle serait fédérale. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'amusent maintenant à prendre la carte de l'Algérie, à la diviser sous forme de Lego, etc. Ça appartient, ça n'appartient pas, ça rentre pas. Et comme si c'était des quilles, c'est pas des humains qui vivent ici. Il y a les Algériens, c'est des personnes humaines. Ils ont leur représentation aussi, ils ont leur imaginaire, ils ont leurs intérêts. Ils ont leurs intérêts dans toute l'Algérie et même dans la Méditerranée pour aller plus loin. Nous ne sommes plus au XVIIe siècle où les gens étaient retranchés dans leurs tribus, dans leurs taufirtes et dans leur clan familial, etc. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de multiculturalisme cosmopolitain. Nous sommes humains, nous appartenons à l'humanité, nous sommes un bout d'humanité. Et bien sûr, nous avons aussi notre spécificité, etc. Donc, on a vu que la société ne marche pas dans ce sens-là. La société, ce qu'elle a demandé pendant le Hirak, elle a demandé d'être reconnue dans ses droits linguistiques, démocratiques, politiques, culturels, etc. Donc, utiliser, faire un État pour tout le monde, un État qui sert la totalité de la collectivité nationale et la communauté politique. Donc, si on ne revient pas à un raisonnement de type scientifique, donc dans les sciences sociales, notamment la sociologie, l'anthropologie, l'anthropologie culturelle, religieuse, etc., l'histoire, il n'est pas possible que chacun vienne, on a le droit de rêver, on a le droit aussi d'écrire une mythologie, de déclarer ce qu'il considère comme étant idéal. Mais dans la réalité, je vais vous dire, pour stabiliser les frontières de l'Algérie, ça nous fait déjà combien de temps? Et c'est déjà problématique par rapport à certains États, n'est-ce pas? Alors maintenant, aller stabiliser les frontières, les nouvelles frontières qui seraient créées comme ça par un coup de tête, par quelqu'un qui n'a été mandaté par personne, etc. Je pense qu'il faut revenir à des postures beaucoup plus raisonnables, demander la démocratie, demander la reconnaissance des spécificités culturelles, linguistiques, etc., des régions. Refaire le découpage territorial, non pas pour émietter le territoire algérien, mais au contraire pour essayer de faire des regroupements par affinité culturelle, linguistique, ensuite économique, etc. Je vais vous donner un autre exemple, je crois que j'ai beaucoup parlé. C'est le cas de la Catalogne. La Catalogne était déjà dans le royaume d'Espagne, elle était avec un esprit républicain, vous voyez, et elle était autonome. Quand elle a voulu, il y a quelques années, passer à l'indépendance, il n'y a personne qui a soutenu le projet, personne. Tous les États européens, tous les États, j'allais dire, qui pouvaient réfléchir un peu, n'ont pas accepté l'idée de morcellement, parce que l'histoire, depuis donc la création de la notion d'État-nation, a fonctionné dans le sens des regroupements. C'est comme ça que la Grande Allemagne s'est formée, c'est comme ça que les autres pays se sont formés, la France, etc. Donc on ne peut pas faire de l'histoire à contresens.
Merci, professeur Dourani. Professeur Irmat, professeur Dourani vient d'évoquer le fait que le MAC, dans sa déclaration, n'a consulté personne, il n'a reçu aucun mandat. Il y a beaucoup d'observateurs qui parlent aussi d'autres aspects qui rendent problématique. Donc, le geste qu'il a posé en France, c'est ses accointances avec l'extrême droite. En France, on sait que Farhat Mehni lui-même a été reçu quelques jours du 14 décembre par le vice-président du Rassemblement national. Un Rassemblement national, un parti d'extrême droite qui a été fondé, y compris par des tortionnaires de la guerre d'Algérie. On sait qu'il il soutient Israël, il a eu des rencontres, même à l'événement du 14 décembre, il y a la présence de personnes qui sont venues des territoires occupés, il y a de l'extrême droite, donc d'Europe, en tout cas des courants islamophobes. C'est ces groupes-là qui ne voient pas l'Algérie d'un bon œil, qui soutiennent donc le projet du MAC. Est-ce qu'il n'y a pas matière à voir un danger sur l'Algérie quand on connaît donc les changements géopolitiques actuels dans la région et dans le monde, professeur Irmat?
Oui, je crois que le danger existe, bien sûr. On connaît très bien le conflit qu'il y a, qui dure depuis longtemps entre l'Algérie et le Maroc. On connaît les problèmes que pose la Palestine aujourd'hui, et bien sûr avec tous les massacres qui sont faits par Israël dans ce pays. Israël est maintenant implanté, disons, au sein du Maroc, qui est un pays voisin. Il y a certainement un danger, bien sûr, pour l'Algérie. Mais si tu permets, Rabah, je voudrais revenir à la question que tu as posée juste avant sur le refus de la pluralité. Est-ce qu'elle ne nourrit pas, as-tu dit, les radicalités qu'il prétend combattre? Alors, je voudrais souligner quelques faits. C'est que le refus de cette pluralité, ce qu'on pourrait appeler aussi le mythe de l'unité ou de l'unicité, il a conduit à plusieurs résultats, non pas seulement le résultat qu'on connaît aujourd'hui, mais il avait conduit et il conduit toujours à ces résultats. Le premier résultat, c'est la fuite du pays, donc ce refus, encore une fois, de la pluralité, ce refus d'accepter l'autre au sein même de la société. Le premier résultat, c'est la fuite du pays par les meilleurs de ses enfants. Alors la preuve en est, c'est que, comment tu expliques, on peut poser la question, pourquoi toi et moi, on est, toi au Canada, moi aux États-Unis et beaucoup d'autres en Europe, etc. Donc ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, ça a été les révoltes, bien sûr, populaires. Comme par exemple, pour ne citer que celle-là, le Hirak de 2019 et tous les Hiraks, bien sûr, qui ont précédé. Le troisième résultat, bien sûr, c'est la création de mouvements autonomistes, de mouvements indépendantistes comme celui du MAC. Je crois qu'il est absolument indispensable, il est absolument nécessaire que l'État reconnaisse la pluralité donc, de la société algérienne dans tous les domaines, et on en a parlé tout à l'heure, et pour que, si vous voulez, qu'on puisse redémarrer sur de bonnes bases, et réaliser une unité de pensée, une certaine unité de pensée, une certaine unité de vision. On est obligé de passer par là. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire à ce propos.
Merci, professeur Arsri Irmat. Professeur Dourani, le titre de notre émission, donc Algérie démocratique, sociale et plurielle, le Hirak a remis ce projet-là au centre de l'espace public. Mais pourquoi il n'a pas réussi, d'après vous, à le transformer en réel projet politique structuré et durable? Si l'on voulait aujourd'hui passer du slogan au projet réel, par où faudrait-il commencer concrètement? Dites-nous aussi, il y a plusieurs pluralismes dont on peut parler, en Algérie, pluralisme linguistique, pluralisme culturel. Il y a des gens qui parlent aussi de pluralisme juridique, c'est-à-dire par rapport donc, aux questions du rapport avec la religion, des recommandations de charia versus donc, des lois civiles et égalitaires. Il y a plusieurs projets, je pense feu Hossein Zahouan avait un projet dans ce sens-là. Par où commencer et qu'est-ce qui bloque en réalité en dehors donc, de la volonté des pouvoirs publics?
Comment te dire? Juste pour compléter une idée que je ne pouvais pas dire tout à l'heure parce que j'avais trop parlé, il faut traiter, me semble-t-il, raisonnablement, on ne va pas ce qui s'est passé, cette fameuse proclamation ou déclaration d'indépendance, on a vu que c'était pas rien. Mais en même temps, il faut pas seulement l'analyser sous l'angle de la traîtrise. Galway, c'est des traîtres. Bon, on a toujours parlé de ça depuis, j'aime dire, le PPAMTLD. On avait même à l'époque inventé un PPK, Parti du Peuple Kabyle, qui n'existait pas. On l'a inventé parce que c'était nécessaire. Donc, c'est pas ça l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, me semble-t-il, c'est d'abord de considérer ça comme un symptôme d'un dysfonctionnement fondamental de l'État. C'est-à-dire l'État, je parle de l'État, n'est-ce pas? Donc, moi aussi, je suis dedans. Donc, c'est un dysfonctionnement de l'État. Alors, il est nécessaire de revoir les politiques publiques. J'en viens à la question du Hirak. Il faut revoir les politiques publiques. Il faut revoir un ensemble de discours sur l'identité. Il faut revoir, par exemple, le récit national. Un récit national qui devrait principalement recentrer l'Algérie sur son algérianité d'abord, ensuite, sa maghrébinité, sa méditerranéité, son africanité, etc., comme je le montre dans certains de mes ouvrages. Donc, il est nécessaire d'analyser, donc de produire aujourd'hui, l'urgence est à mettre en place des think tanks, de véritables sociologues. Donc, j'en ai cité quelques-uns, y compris Samir Larabi, n'est-ce pas? Mais d'autres aussi, Hassan Remaoun, Jabi et d'autres, j'avais parlé de Karim Khaled qui parle de l'exil, du double exil, exil intérieur et exil extérieur de l'intelligentsia. Donc quel est le rôle de l'intelligentsia en tant qu'élite qui peut produire des solutions pour la société algérienne et quelle que soit la langue, on ne peut pas changer de langue agadabrak. Donc, les politiques linguistiques, les politiques éducatives, etc., les politiques culturelles, toutes ces politiques-là doivent aujourd'hui pouvoir être interrogées rationnellement, froidement, et voir quels ont été leurs effets néfastes sur l'évolution de la société. Alors que, j'avais dit tout à l'heure, que la société n'est pas si divisée que ça. La société, matkara al-qbayl, matkhab al-arab, plus que les autres, mais voilà. C'est-à-dire, on est, comme dit le proverbe en langue arabe. C'est-à-dire, nous sommes tous sur une felouque qui est mal foutue. Et cette felouque risque à n'importe quel moment de sombrer. Et c'est ça qu'il faut absolument lui éviter. Le Hirak était une solution. Le Hirak, j'avais déclaré à la télévision algérienne à l'époque, où c'était possible de faire des déclarations, j'avais déclaré que ce Hirak doit absolument réussir. Dans quel sens? Dans le sens où des idées qui avaient été les idées fondatrices, les idées fondamentales, les plus partagées, devaient triompher dans les politiques à venir. Je ne parle pas des individus, ça ne m'intéresse pas en soi. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est ces idées-là. C'est sur quel programme politique on va travailler, sur quel programme politique puiser, bien sûr, inspiré des slogans du Chirac, on pourrait construire une nation forte. Parce que si le Chirac avait réussi, on serait une nation inattaquable dans la Méditerranée par rapport à l'Afrique et par rapport aux autres trublions relativement d'ailleurs assez puissants. Donc, pourquoi le Chirac il a échoué? Il a échoué, je ne vais pas te dire parce qu'il a été réprimé. Ça, c'est une évidence, donc je ne vais pas te parler de ça. Je te dis que le Chirac avait des faiblesses internes. Donc, comme on oppose au fonctionnement de l'État une pensée critique, il faut appliquer la même pensée critique à l'égard de ce grand mouvement qui a vraiment donné de la fierté au peuple algérien et aux autres peuples de la planète. Le problème, c'est que j'ai dit à bien des gens, je ne vais pas les citer, qui étaient assez actifs dans le mouvement, il a dit, je n'ai jamais vu. Hein, moi, je lis un peu dans ce domaine, je n'ai jamais lu d'une révolution qui a réussi sans être organisée. Ben, j'avais posé les problèmes de l'organisation dans deux ou trois interviews dans la presse algérienne. J'ai dit clairement que si on n'organise pas le Chirac, il n'est pas possible qu'il aboutisse parce qu'il n'aurait pas de tête. Mais qu'est-ce de l'histoire? Oui. L'organisation horizontale, ça, c'est le Kitab al-Akhdar de Gaddafi. C'est des fadaises de la politique que plus personne n'écoute maintenant. Donc, il fallait une organisation. Comment s'organiser? C'est pas s'organiser en tant que parti politique, c'était pas possible. C'était plusieurs tendances politiques, mais qui étaient toutes unies autour de la notion de démocratie. Et bien évidemment, quand je dis démocratie, ça renvoie à la séparation des pouvoirs, à la libre expression, une presse et des médias libres, un système éducatif rénové, efficace, etc. Voilà l'organisation. Donc, c'est un groupe qui organise autour de ça. Il organise le mouvement, qui est un long fleuve, un grand fleuve, il le canalise. Dans ce sens-là, c'est pas lui qui va prendre le pouvoir. Le pouvoir devait être passé par des élections et des programmes donc de partis politiques différents. Malheureusement, il y a eu une confusion entre organisation de type partisane et organisation de la masse pour que elle n'aille pas dans tous les sens parce qu'elle peut se faire du mal à elle-même sans le savoir. Elle peut être bien évidemment infiltrée. Etc. L'absence d'organisation était une grave lacune de Chirac. C'est pas qu'elle avait demandé trop, elle avait demandé ce qu'il fallait demander. On était sorti d'un système de Bouteflika qui avait gouverné pendant 20 ans, qui était quasiment inexistant à partir de 2005. Il était déjà très épuisé, très atteint par la maladie. Et pendant tout ce temps-là, 20 ans, 15 ans après, il a continué. Donc, c'est un système qui était devenu complètement déraisonnable, où on offrait un cheval à un cadre, et c'est juste pour illustrer la question. On sort de ça, après avoir dépensé 1 400 milliards de dollars. On ne sait pas où c'est jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont partis. Et l'Algérie ne s'était pas sentie meilleure. Il y a eu quelques investissements, les CRER, certaines autoroutes, le métro, et j'en passe, je ne vais pas faire le truc. Donc c'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tiré les conclusions de ça, je veux dire pour les gens qui étaient dans le sac, mais aussi pour les gens qui dirigeaient l'État à cette époque. Et maintenant, est-ce qu'on est en train de tirer les conclusions qu'il faut de ce qui est en train de se passer, de cette malheureuse déclaration? Et j'ajoute un petit point et je m'arrête parce que j'ai tendance à trop parler là-dessus. Quand on a fait le octobre 88, en octobre 88, on a fait déjà le bilan d'une manière de gérer l'État algérien. Et la solution qui avait été, c'est la constitution de 89 ou 90, je ne me rappelle plus, les 89 je crois, on a ajouté des éléments. C'est une constitution démocratique, c'est peut-être la constitution la plus démocratique qui n'a jamais existé depuis que l'Algérie existe. Et malheureusement, il y a eu des manipulations de sorte à ce qu'il y ait un parasite, une démocratie avec le fils. Ça n'est pas possible. Il fallait même pas y penser, mais on y a pensé. Et le fils a été institué, légalisé de manière non légale. J'allais dire, d'une certaine façon, il a été imposé. Ensuite, dans les années 90, il y a eu le drame du terrorisme islamiste qui a tué, je ne sais plus combien, 250 000 morts, je ne sais plus combien de millions, de milliards de dollars de dégâts pour les infrastructures, etc. La fuite des élites, etc. Tout ça, ça se compte avec des chiffres astronomiques. Et la réflexion après, c'était de faire une réforme de quoi? Les trois grandes réformes qui devaient commencer le premier mandat de Bouteflika, c'était la réforme de la justice, parce que ça faisait mal, effectivement. C'était la réforme des missions de l'État, la commission Misantbeh, et la réforme de la justice, de l'école, c'est-à-dire du système éducatif. Les trois grands axes d'une réforme démocratique qui remettrait la société algérienne et l'État algérien sur une bonne trajectoire, une trajectoire de développement, etc. Mais malheureusement, les rapports des trois commissions ont été cachés. Il n'y a personne qui sait ce qui s'était dit. La réforme de Misson-Tsbeh, puisque j'ai eu accès à travers mes amis qui étaient dedans, avait posé le principe de déconcentration des pouvoirs de l'État. C'est l'État qui fait ça, c'est pas moi. C'est l'État, c'est-à-dire avec les gestionnaires de l'État à l'époque. C'est eux qui ont désigné la commission Misson-Tsbeh, qui était un ensemble de gens patriotes qui avaient des compétences et qui ont produit un texte respectable. On parlait de déconcentration. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir tous les pouvoirs concentrés à Alger. Il faut qu'il y ait des pouvoirs dans les régions, il faut qu'il y ait des pouvoirs répartis. Donc, en répartissant les pouvoirs, en réalité, on répartit aussi les responsabilités des victoires, mais aussi des échecs éventuels. Si un programme échoue dans une région, ce ne sera pas la faute du pouvoir central. Ce sera assumé localement. Donc, on décharge un peu ce qui fait justement l'aspect centripète. C'est ce qui agrège la société, c'est un gouvernement, je l'avais dit tout à l'heure, parmi les quatre facteurs qui forment un État et un État-nation.
Merci, professeur Doureri. La même question pour professeur Irmak. Pourquoi ce vœu-là d'une Algérie démocratique sociale et plurielle n'a pas été mis en œuvre? Et si on devait passer donc à l'action, par où commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire, professeur Irmak?
Oui, je serais un petit peu d'un avis différent de celui de mon ami et collègue Abdelrazak en ce qui concerne l'échec du Hirak. Moi, je pense que le Hirak a exprimé, et par millions, comme il l'a dit lui-même, ce qu'il voulait de l'Algérie. Une Algérie démocratique, dans tous les slogans qu'a cité Abdelrazak, une Algérie démocratique, libre, ouverte à l'intérieur et sur le monde. Et il l'a fait, et c'est ça qui est peut-être, je crois qu'Abdelazak l'a souligné aussi, il l'a fait pacifiquement, je souligne bien pacifiquement, sans violence. Alors, pourquoi le Hirak n'a pas réussi à tourner son mouvement en projet politique? The short answer is, le mouvement populaire n'a pas été compris par les autorités, bien sûr, par le pouvoir, comme un appel au changement du système de gouvernance, mais comme un mouvement visant les gouvernants eux-mêmes et leurs intérêts. Le Hirak est vu plutôt comme un trouble-fête et non comme le Hirak béni qui a été d'ailleurs consacré dans le préambule de la Constitution, d'où sa répression dont a parlé aussi Abdelazak tout à l'heure. Alors, pourquoi le Hirak n'a pas réussi donc à devenir un projet politique, à aboutir? Cela aussi n'est pas difficile à comprendre parce que, encore une fois, le Hirak n'a pas été vu comme un cri d'alerte, comme une alarme pour la situation de l'époque. Pourquoi le projet du Hirak aurait pu se transformer, à mon avis, en projet politique si et seulement si les conditions suivantes étaient réunies. Un, si les autorités au pouvoir et si les hirakistes avaient entamé un dialogue. Comme le dit le fameux adage algérien, « Yed wahda ma tsifaq », les deux parties, les deux paix, le pouvoir et le peuple, devaient établir un pont entre eux et ils ne l'ont pas fait. Deuxième chose, si l'initiative du dialogue était venue du pouvoir, en d'autres termes, si les autorités avaient pris l'initiative du dialogue, cela aurait pu résulter en une feuille de route définissant aussi bien les voies que les moyens de construire une Algérie véritablement démocratique, sociale et plurielle. Voilà un peu les idées que je voulais exprimer en ce qui concerne le Hirak, pourquoi il a réussi ou n'a pas réussi.
Merci beaucoup, professeur Irmat. Je vous laisse un dernier mot donc, en guise de conclusion. Je ne sais pas que reconnaître pleinement donc, la pluralité. Est-il aujourd'hui donc une condition de l'unité nationale plutôt qu'une menace pour elle? Allez-y, un petit dernier mot chacun, en commençant par le professeur Abdelazak Doulari et ensuite professeur Arizri Irmat.
Moi, je pense que la reconnaissance de la pluralité de l'Algérie, de sa diversité, est une condition sine qua non pour un État algérien stable, c'est-à-dire qui peut se consacrer aux tâches de développement, aux tâches économiques et bien évidemment à faire face, développer ses élites pour faire face aux autres nations et aux autres États, donc qui ne vont pas lui faire de quartier. C'est très clair, si on ne reconnaît pas cette pluralité. Et d'ailleurs, ça s'adresse à tout le monde. La revendication amazigh ne veut pas reconnaître la diversité de la mazérité, et ça c'est vraiment malheureux, parce que le mozabite, il n'y a pas seulement une langue mozabite qui est différente du kabyle, du chaoui, du touareg, etc., mais cette langue est liée à une culture. Elle n'est pas la langue, ce n'est pas seulement un système de phonèmes ou un système de machin. Donc il faut reconnaître cette pluralité et construire à partir de là. Sinon, aucun développement ne peut se faire et aucune stabilité ne peut, à mon avis, bien évidemment, c'est une opinion, c'est pas... J'aimerais ajouter, si tu permets, deux bien secondes sûr, seulement, bien sûr, allez-y. Pour la question de la manière dont le Hirak a fonctionné, il y avait un problème de la notion de transition. Elle n'a pas été assez explicitée. On n'a pas assez rassuré les gens. J'avoue que j'avais travaillé sur ce point et j'ai fait beaucoup de publications sur la presse, mais aussi sur la télé et la radio. À l'époque, c'était
accessible.
Il fallait parler de la transition, mais en même temps, ne pas parler de la transition comme si c'était un devoir à l'université, mais dans le réel, dans le vif. Nous avons un État qui existe déjà. Donc, il y a des intérêts qui existent déjà, qui sont là. Donc, on passe dans une transition, on passe d'un État à un autre, mais comment comment on passe? On l'a pas défini. Nous avons un arsenal militaire, nous avons des biens qui sont convoités par-ci, par-là. Comment on ne peut pas imaginer une transition brutale? Ça n'est pas possible. Et le manque, justement, d'organisation n'a pas permis aux gens de pouvoir discuter de ces questions qui peuvent avoir donné peut-être des idées aux gens qui se sont opposés totalement au Hirak d'une manière verte. Bien sûr, il y a des choses qu'on pourrait ajouter, mais c'est ça la vérité. Il fallait penser la transition. Elle n'a pas été faite, elle n'a pas été pensée. J'espère que maintenant on l'a pensée, parce que on dit le Hirak il a échoué, mais en fait il n'a pas dans un mouvement social, comme je le dis tout à l'heure par rapport à cette déclaration, un mouvement social d'une telle ampleur, bien sûr incomparable avec cette déclaration, ça n'a rien à voir. Un mouvement d'une telle ampleur qui a duré pendant 2 ans, organisé comme pas possible, ne peut pas avoir à disparaître, devoir disparaître comme ça sans laisser de traces. C'est-à-dire que tout le discours qui a été, tous les discours d'unité, les discours de démocratie, les discours de liberté, etc., de justice, d'égalité en femmes, etc., tout ça, ce sont des discours qui se sont accumulés et qui ont imprégné les esprits de la nation algérienne. Même si, après ça, on a privilégié, on a donné plutôt l'avantage à un discours qui était contraire. Je pense que avec les derniers coups qui ont été portés à la nation, je pense qu'il est urgent de créer au minimum des états-majors politiques avec les différents partis politiques démocratiques plus particulièrement, mais aussi avec les différentes élites et notamment les gens des think tanks, où il y a des spécialistes de sociologie politique, de philosophie politique, de politologues, etc. Des petits think tanks comme ça qui analysent pourquoi nous en sommes arrivés là. Et comment s'en sortir, non pas par la criminalisation, par la traîtrise, l'accusation de traître, etc., mais par une politique englobante, une espèce de, j'allais dire, endiguement. Hein, le terme existe, de toutes les forces centrifuges. Centrifuge, ça signifie fuir le centre. Merci pour cette émission très intéressante.
Merci, professeur Abderzak Dourari, à vous, et on vous invitera pour l'émission sur la transition démocratique et notamment donc lire vos textes. J'avoue que je n'ai pas lu de textes de vous sur la transition démocratique, mais je promets de le faire et de vous inviter à une émission prochainement. Donc, dernier mot, professeur Irmat aussi.
Oui, moi je pense que en dehors un petit peu de ce débat sur la culture, en dehors de la diversité culturelle, de linguistique, etc., en dehors même de cette déclaration donc d'indépendance, etc., je pense que l'Algérie, le pouvoir algérien aurait beaucoup à gagner à entreprendre un petit peu, à prendre les décisions que je vais citer tout à l'heure. La première décision, c'est de libérer tous les prisonniers qui sont emprisonnés pour leur simple opinion, alors que la Constitution stipule bien que l'opinion est un droit et non pas un délit. À mon avis, une telle décision ne manquera pas de créer un climat de confiance et de liberté propice au démarrage d'autres étapes. Deuxième solution, le pouvoir doit reconnaître toutes les organisations de la société civile et les partis politiques et leur permettre d'exercer leurs droits comme garant contre tout abus de pouvoir éventuel. Troisième chose, le pouvoir doit initier le dialogue. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Un dialogue qui a été longtemps interrompu entre lui et le peuple, ou ses différents représentants, ainsi que nous l'avons encore une fois dit tout à l'heure. Quatrième et dernier point, le pouvoir doit ouvrir les vannes et laisser le peuple et les partis politiques et les organisations sociales débattre sans restriction, et je crois qu'Abdelazak en a parlé, avec cette idée aussi de think tank, etc. Donc, de débattre sans restriction de tous, je dis bien tous les sujets qui concernent le pays, sans distinction. Ouvrir des débats dans le pays, et je crois qu'Abdelazak en a parlé aussi, ouvrir des débats à l'intérieur même du pays, comme celui qu'on vient d'avoir ici à Alternativi au Canada, permettrait à mon avis au peuple de s'exprimer et de parler de ce qui ne va pas. Ces quatre étapes préliminaires permettraient à mon avis la création d'un climat serein nécessaire à la construction une fois pour toutes d'une Algérie prospère et démocratique, forte à l'intérieur et ayant son mot à dire sur la scène internationale, comme dans les années 60-70, je suis sûr que Abdelazak s'en rappelle. Si ces conditions sont remplies, je pense qu'il n'y a pas de raison, à mon avis, que le pays ne retrouve pas le chemin de la prospérité et de la démocratie tel que je l'ai défini dans mon introduction. Voilà un petit peu le dernier mot que je voulais dire.
Merci beaucoup, professeur Arsri Irmat. Merci beaucoup, professeur Abdelazak Doueleri. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Et ceux qui regarderont donc, cette émission en différé, n'hésitez pas donc, à partager le lien. Alternative TV vous promet donc, de revenir sur ces sujets-là qui sont des enjeux important de la société algérienne. On a une émission vendredi que j'anime moi-même aussi, c'est l'émission hebdomadaire qu'on appelle El Gherbel, qui revient sur l'analyse des enjeux de l'actualité. Cette semaine, je reçois trois représentants, vous avez évoqué les partis politiques, je reçois trois représentants de partis politiques algériens. Monsieur Lakhdar Amqaran, qui est le nouveau président du parti Jil Jadid, c'est la première fois donc, sur le plateau d'Alternative. Il y aura, je ne suis pas sûr de qui, initialement c'était Monsieur Tazib Youssef, secrétaire national au PT, mais je pense qu'il ne pourra pas lui être présent, donc il y a un autre membre du bureau politique du Parti des Travailleurs qui sera avec nous, et le professeur Kamel Issaad, qui est un prof d'université aussi, mais aussi dirigeant du Parti Socialiste des Travailleurs, un parti qui a été suspendu il y a quelque chose comme 3 ans. Donc, merci à vous tous. Au plaisir d'avoir l'occasion de débattre avec vous, comme on l'a fait ce soir dans cette émission. J'espère très instructif pour ceux qui nous ont suivis et pour ceux qui vont la regarder plus tard. Bonne soirée. Au revoir.
Merci. Bonne soirée.
Merci.